Bonjour, bonjour Yves, au micro de Divergence FM pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui commence un peu solennellement, mais on va pas durer, une émission consacrée à la musique de film, je le rappelle à ceux qui nous sont fidèles, je l'apprends à ceux qui nous rejoignent, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent depuis maintenant un sacré bout de temps. Le générique de notre émission est bien évidemment une musique de film, en l'espèce celle d'un petit bijou signé Blake Edwards et sorti en 1962. Une musique signée Henry Mancini, ça s'appelait Moon River et ce fut un succès absolument mondial. Un film avec George Piper et la douce Audrey Byrne dans les rôles principaux. C'est un des géants d'Hollywood que nous allons consacrer cette émission de ce jour, alors d'où lui ne l'était pas, John Huston, puisque c'est de lui qu'il s'agit, né le 5 août 1906 à Nevada dans le Missouri, et non pas à Missouri dans le Nevada. Son père, Walter Huston, un grand acteur dans tous les sens du terme, et sa mère, Rhea Gore, écrivain de renom, font que, évidemment, le petit John a, dès le début de sa carrière, le goût de la chose artistique, même si, aussi curieux que ça paraisse quand on constate la carrière qu'il mènera en tant que réalisateur, eh bien c'est en tant que boxeur professionnel que John Huston fait ses débuts dans la vie. Il s'en souviendra d'ailleurs dans un film tourné quelque part en 1972, très précisément Fat City, qui est un peu le récit de ses premières aventures. Cela dit, très rapidement, il abandonne cette heureuse profession, commence à écrire des nouvelles, des pièces de théâtre et à débuter comme comédien au cinéma, juste à l'entrecroisement du muet et du parlant, quelque part entre 1928 et 1930. Ensuite, il devient scénariste à Universal et puis il tourne son premier film, coup d'essai, coup de maître, en 1941. Ça s'appelle Le Faucon Maltais, c'est adapté d'un roman de Dashiell Hammett avec, dans le rôle de Sam Spade, Humphrey Bogart lui-même, un grand classique de ce qu'on a convenance d'appeler le film noir, où aux côtés d'Humphrey Bogart, eh bien, on retrouve quelques très grands rôles du cinéma américain comme Peter Lorre, Sidney Greenstreet et même Elisha Cook Jr. Ça ne vous dit rien certes, mais si vous voyez son visage, vous saurez de qui il s'agit. Je vous aurais bien passé un petit extrait de la bande originale de ce film, mais hélas, je ne l'ai pas trouvé. Donc on va écouter un extrait, non pas du film suivant de John Huston, puisqu'il tourna pendant la guerre quelques films un peu d'inspiration patriotique. Nous sommes, je le rappelle, avec Le Faucon Maltais en 1941. Et on va sauter quelques années pour écouter un extrait de la bande originale d'un film tourné en 1947. Ça s'appelle Le Trésor de la Sierra Madre, The Treasure of Sierra Madre. La musique, elle est signée de Max Steiner. Évidemment, je vous en dirai un peu plus, mais j'ai déjà été assez bavard. Donc, place à la musique, Le Trésor de la Sierra Madre, Max Steiner, dans 24 notes secondes.
Thank you.
Voilà un trop court extrait, hélas, de la bande originale du Trésor de la Sierra Madre, une musique de Mike Steiner, aisément reconnaissable pour les aficionados, un film de John Huston auquel nous consacrons cette émission de ce jour. Alors cette année-là, donc en 1947-48, je ne sais trop, le film n'obtint pas l'Oscar du meilleur film, puisque ce fut le Hamlet de Laurence Olivier. Mais par contre, John Huston, lui, obtint l'Oscar du meilleur réalisateur et son propre père, Walter Huston, déjà cité, qui tient un rôle fort important dans ce film, eh bien, son propre père obtint l'Oscar du second rôle. Que je sache, ce serait marqué dans ma petite fiche, sinon, eh bien, Humphrey Bogart n'obtint pas cette année-là l'Oscar. Mais Humphrey Bogart fut un des compagnons de John Huston pendant ses premières années et un de ceux qui contribua à en faire le grand réalisateur qu'il était déjà, peut-être, avant de le devenir. Ensuite, eh bien, John Huston enchaîna quelques films dont certains sont des chefs-d'œuvre, d'autres peut-être un peu plus mineurs. Je n'irai pas jusqu'à dire que l'homme n'a tourné que des chefs-d'œuvre, mais en tout cas, Key Largo, tourné en 1948 avec à nouveau Humphrey Bogart et, sauf erreur de ma part, cette fois Lauren Bacall à ses côtés, eh bien Key Largo fait encore partie de ses chefs-d'œuvre. Encore une illustration du film noir dont John Huston avait d'une certaine manière posé les jalons dans Le Faucon Maltais et qu'il retrouvera bien des années plus tard en forme de revival, et cette fois uniquement en tant qu'acteur dans le fameux Chinatown de Roman Polanski où John Huston incarne un rôle absolument inoubliable, Chinatown, qui est une sorte d'hommage justement au film noir tel que John Huston en avait défini les codes. Et c'est d'ailleurs à nouveau la musique d'un film noir que nous allons écouter. C'est en 1950, alors en anglais ça s'appelle The Asphalt Jungle. En français, curieusement, ma foi, le titre n'est pas si malvenu, ça s'appelle Quand la ville dort. Encore une histoire tragique, marquée par le sentiment d'échec, comme beaucoup de films. Ainsi, à la fin du Trésor de la Sierra Madre, eh bien, on disperse au vent l'or que nos héros ont mis tant de mal pendant 2 heures de film à amasser, et tout le monde commence à rire dans un désordre bien houstonien. Il en est de même donc dans Quand la ville dort, où Stirling Hayden, qui interprète le rôle principal, eh bien, se retrouve dans une figure classique du genre, le gars qui fait son dernier coup et ça tourne mal. Mais en l'espèce, il s'agit de John Huston, et quant à la musique, il s'agit de celle de Miklos Rossa. Donc on s'en écoute un large extrait dans 24 notes secondes. Voilà un petit extrait de la bande originale de Quand la ville dort, une musique de Miklos Rossa, un film de John Huston. L'histoire donc du gars qui fait le dernier coup et ça tourne mal. Et ceux qui ont vu The Asphalt Jungle, le titre original, eh bien n'auront certainement pas oublié la sublime scène finale où l'on voit Sterling Hayden fuir dans la campagne de son enfance et agoniser, c'est le mot hélas qui convient, au milieu de chevaux, le tout transporté par la musique de Miklos Rossa. Jamais autant à son bénéfice que dans le lyrisme noir et en l'espèce, eh bien, un compositeur. Là encore, auquel nous avons déjà rendu largement hommage, qui a beaucoup accompagné ce genre du film noir tout au long des années 50. John Huston, donc je me garderai bien de le limiter au genre, puisque dans les années qui suivirent, il tourna des films ô combien différents, parmi lesquels on peut retenir en 1952 l'Odyssée de l'African Queen, The African Queen, qui fournissait une fois de plus à Humphrey Bogart l'occasion de jouer un de ses rôles d'aventurier désabusé et très, très mal rasé qu'il affectionnait tant, avec à ses côtés Catherine Hepburn, absolument magistrale, en vieille fille, un peu coincée, mais pas totalement quand même. Bref, une petite merveille que suivirent d'autres films plus contrastés, dirons-nous. Ainsi, en 1953, le fameux Moulin Rouge, où l'on voyait raconter, avec force cliché quand même sur la France, la vie de Toulouse-Lautrec, incarnée par un José Ferrer absolument méconnaissable, puisqu'il faisait à peu près 1m12 dans le film et une musique de Georges Auric, notre national né à Lunel, je le rappelle, Georges Auric, une musique qui a connu un très très grand succès. On vit ensuite John Huston s'attaquer, ma foi, plutôt de belle façon, au Moby Dick d'Herman Melville en 1956 avec Gregory Peck dans le rôle principal, mais on le vit aussi, on ne sait trop pourquoi, tourné en 1958, Le Barbare et la Geisha, déjà à rien que le titre, et aussi Les Racines du Ciel, une adaptation plutôt ratée de Romain Gary. Et puis, pour ne pas le cantonner au genre du film noir, eh bien, on va écouter un extrait d'un western, cette fois tourné en 1959. Et quel compositeur pour un western ? Eh bien, essentiellement Dimitri Tiomkin, qui accompagna le genre lui aussi pendant les années 50. Un western qui réunissait dans les rôles principaux Burt Lancaster et la douce Audrey Hepburn, déjà citée tout à l'heure, un western vaguement incestueux, le premier tourné par John Wayne, assez mal reçu par la critique. On en dira à nouveau un petit mot, mais on va écouter un petit extrait de cette bande originale. Le Vent de la Plaine, en anglais ça s'appelait The Unforgiven, le non pardonné sauf erreur de ma part, musique de Dimitri Tiomkin. Un extrait de la bande originale du Vent de la Plaine, un film de John Huston tourné en 1959, une musique de Dimitri Tiomkin avec dans les rôles principaux Burt Lancaster et Audrey Hepburn pour un film qui connut donc, je l'ai esquissé avant de vous présenter ce morceau, un destin plutôt contraire puisque c'était le premier western tourné par John Huston, qu'il fut mal reçu par la critique et qu'à l'insu de John Huston, mais ça c'est les méthodes américaines même à l'égard de réalisateurs aussi immenses, eh bien le film avait été trafiqué de telle façon que son message largement antiraciste, dû au scénariste Ben Maddo, avait été occulté, voire détourné, puisque, au risque de faire du spoiler, on découvrait dans le film qu'Audrey Hepburn, qui était au départ la fille de Burt Lancaster, eh bien, en fait, ne l'était pas, et était issue de familles indiennes, ce qui, s'agissant d'Audrey Hepburn, était quand même peu crédible, ma foi, c'est le cinéma. S'ensuivait évidemment une série de querelles familiales. Tout finissait plutôt mal, plutôt bien. Ça dépend comment on l'interprétait. Mais en tout cas, pour John Huston, ce fut une sorte de film un peu renié, puisque le résultat final ne correspondait pas à ses intentions. L'homme se rattrapa dès l'année suivante, puisqu'en 1960, il tourna un film à tous égards mythique. En anglais, ça s'appelait « Les Désaxés ». En anglais, oui, ça s'appelait The Misfits. En français, ça s'appelait Les Désaxés. C'est moi qui le suis désaxé. Et on y retrouvait une actrice que, à peine 10 ans plus tard, 10 ans plus tôt, je vais y arriver, c'est sûr. À peine 10 ans plus tôt, John Huston avait fait débuter, puisque dans Quand la ville dort, The Asphalt Jungle, on voyait apparaître à un moment du film une créature blonde plutôt irradiante qui s'appelait déjà Marilyn Monroe et qui, en moins de 10 ans, bâtit la carrière que l'on sait. Et la défie aussi de la même manière, puisqu'en 1960, les Désaxés, The Misfits, qui réunissaient dans les rôles principaux Clark Gable, Marilyn Monroe et Montgomery Clift, eh bien, Clark Gable mourut peu de temps après le tournage. Pour Marilyn, sauf erreur de ma part, ce fut son dernier film entier. Quant à Montgomery Clift, on va le voir, il continua à tourner, mais peu d'années encore. Bref, un film marqué par la mort à tout point de vue, une histoire tragique et des musiques d'Alex North qu'on a déjà beaucoup écouté dans 24 notes secondes. Du coup, on va plutôt écouter la musique du film que Montgomery Clift et John Huston tournèrent l'année suivante. Ça s'appelait Freud, tout simplement, en anglais et Freud Passion secrète en français. C'était, vous l'auriez deviné, la vie de Sigmund Freud vue par le cinéma hollywoodien. Vous l'auriez deviné aussi, c'était Montgomery Clift qui tenait le rôle principal. Quant à la musique, eh bien, elle était signée de notre All Favorite Time, Jerry Goldsmith, l'un des plus grands compositeurs des années 60-70. Elle était fort particulière, mais je vais vous en laissez juger par vous-même. On reparlera du film quelques minutes après. Un extrait donc de cette bande originale Freud, Passion secrète, musique de Jerry Goldsmith, Forever Jerry. Thank you. Voilà, une musique fort originale, Jerry Goldsmith, sinon à ses débuts, du moins en tout cas à ses débuts cinématographiques. Un extrait de la bande originale de Freud, Passion secrète, un film de John Huston auquel nous consacrons cette émission de ce jour. Alors, Freud, Passion secrète, c'est aussi un film rendu célèbre par le fait qu'au départ, eh bien, le scénario devait en être signé de rien moins que Jean-Paul Sartre lui-même. D'ailleurs, ce scénario, on peut le trouver très facilement en librairie, mais vous vous en douteriez, il n'en reste pas grand-chose dans le résultat final, même si le film est tout à fait honnête. Et du coup, eh bien, Jean-Paul Sartre demanda à ce que son nom soit retiré du générique. Un tournage, je l'ai esquissé en parlant des Misfits, dont le tournage avait été très difficile, un tournage qui fut extrêmement compliqué par le fait que la santé de Montgomery Clift, qui n'avait jamais été bien vaillant, se dégradait de plus en plus. Il mourra quelques années plus tard et du coup le tournage s'en ressentit. Mais John Huston, en homme immense et humaniste qu'il était, même s'il en souffrit beaucoup sur le moment, reconnu après coup et bien que d'une certaine manière cela avait contribué à l'intensité de l'interprétation que faisait Montgomery Clift de Sigmund Freud, dont on peut supposer qu'il n'était lui-même pas forcément très bien dans sa peau, même si je le reconnais, c'est un jugement un peu à la serpe. En tout cas, Freud Passion secrète fut en 1962 une nouvelle étape pour un réalisateur dont, hélas, le temps tourne. Nous n'allons pas pouvoir évoquer musicalement plus avant, sauf avec un dernier extrait quand même, la carrière. Mais je m'en voudrais de ne pas évoquer que dans les années qui suivirent, eh bien, John Huston alterna quelques films bienvenus et d'autres, disons, plus incertains. Alors parmi les premiers, on peut retenir Le reflet dans un œil d'or, tourné en 1967 avec Elizabeth Taylor et Marlon Brando dans les rôles principaux, d'après Carson McCullers. On peut évoquer aussi Une petite merveille, L'homme qui voulut être roi, tourné en 1975 avec Michael Caine et Sean Connery dans les rôles principaux, adapté de Rudyard Kipling, un de ses films d'aventure truculents, comme savait, pardonnez-moi, en réaliser John Huston, mais on peut aussi évoquer, dans un genre beaucoup moins intéressant, La Bible, tournée en 1965, une super production bien pesante sur un sujet bien connu. On peut aussi, mais là les pervers se déchirent sur la question, ranger dans la catégorie nanar Le Casino Royal de 1967, James Bond 07 Casino Royal, une sorte de parodie de James Bond. Mais peut-on parodier quelqu'un qui est lui-même sa propre parodie ? Je pose la question. On peut aussi mettre dans le côté pas terrible « À nous la victoire » tournée en 1981, une histoire de foot avec Pelé. Voilà, je n'en dis pas plus, une histoire de foot avec Pelé. Mais bon, il paraît qu'il y a des amateurs aussi. Au moins, John Huston, qui nous aura quittés le 28 août 1987 à 81 ans, ce qui n'est pas, ma foi, pas si âgé pour un homme aussi immense, eh bien, au moins John Huston aura terminé sa carrière avec 3 films plus qu'honorables, vraiment très très bien. Le Au-dessous du volcan de 1984, adapté mon machiniste, je ne sais trop comment l'appeler, me fait un signe du pouce. Oui, Au-dessous du volcan, c'est un très grand film fort méconnu, une adaptation de Malcolm Lowry, bien évidemment, et Dieu sait, pardonnez-moi l'expression, que c'était casse-gueule comme idée. On vit aussi John Huston en 1985 avec L'honneur des Prizzi, un film de mafia avec Jack Nicholson, absolument impérial. Et en 1987, donc l'année même de sa mort, eh bien, John Huston signa une adaptation de quelques nouvelles de James Joyce. Ça s'appelait en anglais The Dead, oui, les morts, vous avez bien compris. En français, un peu plus doux, mais un peu plus juste aussi, ça s'appelait Les gens de Dublin. Une évocation très affectueuse, je dirais, de l'univers de Joyce pour un réalisateur qui, donc, tout au long de sa vie, aura alterné sinon le pire ou le meilleur, du moins le très très bon et le un tout petit peu moins bon. On va se quitter avec un extrait signé Georges Delru de la bande originale d'un film tourné en 1969 qui était une évocation moyenâgeuse, quelque part en plein milieu du 14e siècle. Alors les acteurs, pardonnez-moi, sont absolument inconnus, sauf peut-être Angelica Huston, et oui, la propre fille du maître. Et Dieu sait là encore que, de même que le maître avait un père père, acteur Walter Huston, de même que lui-même joua à l'occasion la comédie, eh bien Angelica, on t'adore aussi. Et donc Angelica était toute jeune, l'interprète de Promenade avec l'amour avec la mort, A Walk with Love and Death. Peut-on se quitter sur un plus beau titre? Mais c'est notre vie, cher ami, A Walk with Love and Death. Une musique de Georges Delerue dans 24 notes secondes. Voilà, 24 notes secondes, c'est fini pour aujourd'hui, comme c'est joli. Au revoir, à bientôt, see you, bye bye.